Les grands feuilletons de France Culture.
Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Saint-Clair, vous êtes avocat comme nous. Nous voici à quelques heures de l'ouverture de ce procès de cour d'assises. Et il faut bien reconnaître que Darzac risque une peine très, très lourde. Un meurtre, deux tentatives d'assassinat. Il joue sa tête. Et nous en sommes à attendre que la vérité sorte d'une enveloppe, comme d'un chapeau de magicien. Oh. De deux choses l'une. Ou bien le contenu de cette enveloppe peut nous aider à sauver notre client, et c'est tout de suite qu'il faut l'ouvrir. Ou bien le contenu suffit à lui seul à le disculper. S'il en est ainsi, notre présence au procès est parfaitement superflue. Et dans ces conditions, c'est tout le barreau qui se couvre de ridicule.
Oh. Que puis-je répondre ? Si Rouletabille a fait dire à son directeur... Agissez suivant mes instructions si la chose devient nécessaire. C'est qu'il a ses raisons. C'est que l'intérêt même de la cause de Robert Darzac l'exige, le commande. Alors, je vous assure que j'ignore pourquoi, mais c'est ainsi.
Mon cher confrère, nous comprenons fort bien votre façon de penser et nous la respectons. Mais nous n'avons pas les mêmes raisons que vous de nous satisfaire d'une simple conviction. Vous connaissez très bien Rouletabille. Nous, non.
Saint-Clair, oubliez toutes ces données. À notre place, très sincèrement, que feriez-vous ?
Eh bien, Rouletabille affirme Robert Darzac est innocent. J'ai l'impression qu'à votre place, je défendrais Robert Darzac avec tous les éléments dont je dispose. Comme si aucun fait nouveau ne devait intervenir, et espérant fermement qu'il interviendra.
Décidément, Saint-Clair, vous aurez raison chaque fois que vous défendrez le dossier Rouletabille. Cela dit, vous nous demandez de faire notre devoir professionnel les yeux fermés. Et tout cela pour respecter le caprice d'un de nos plus jeunes journalistes, qui, si l'on en croit l'article de l'époque, sera demain une célébrité de la presse. Soit. Nous jouerons le jeu, Saint-Clair. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Le moyen de faire autrement.
Mes amis, j'ai vu Rouletabille à l'œuvre. Quand l'affaire du château du Glandier a éclaté, il m'a pratiquement tiré du lit pour me traîner sur place. Tous les représentants de la presse avaient été évincés. Lui, il est entré. Frédéric Larsan, un de nos plus grands policiers de France, pratiquement infaillible, menait l'enquête. Eh bien, ce jeune journaliste, comme vous dites, a mené la sienne exactement comme si Larsan n'existait pas. Il a découvert, stupéfait, l'erreur où se fourvoyait tout le génie du célèbre détective. En vain, il a cherché à le rejeter hors de la mauvaise piste où il s'était engagé. Et le grand Frédéric Larsan a réagi comme vous avez eu tendance à le faire. Oui, messieurs, il n'a pas accepté les leçons de ce petit jeune homme.
Sinclair, nous plaiderons comme vous le souhaitez. Et nous l'en sortirons, avec difficulté, si votre ami nous fait défaut. Et brillamment, à vous en croire, s'il daigne faire son apparition.
Dites-moi, qui préside ?
Le bâtonnier Roku.
Oh, il est foncièrement honnête, ça. Avec un rien d'ingénuité de temps en temps.
Vous pensez à cette réplique qui le marque encore ?
Je dois dire, ce n'est plus le magistrat qui parle, c'est l'honnête homme. Évidemment, ce jour-là, un ange est passé dans le prétoire.
Il y a si longtemps.
Et qui faites-vous citer comme témoin ?
Oh, je pense que la déposition du professeur Stangerson devrait être déterminante. Il n'a cessé de proclamer sa conviction dans l'innocence de Robert Darzac.
Mm-hmm. Vous l'avez vu récemment ?
Il a vieilli de 10 ans, le pauvre.
Oh là.
Il est méconnaissable.
Si seulement on pouvait faire appeler Mathilde à la barre.
Elle sauverait Darzac, c'est plus que certain.
Ah bah tiens.
Il ne fait aucun doute que si elle était en état de déposer, elle réclamerait aux 12 jurés de Seine-et-Oise l'homme dont elle voulait faire son époux et que l'accusation veut envoyer au bois de justice. Malheureusement, nous ne pouvons compter sur elle.
Espérons donc la présence miraculeuse de notre cher Rouletabille.
Vous allez sourire, mon cher Henri Robert, mais je suis persuadé qu'il viendra. Et je base ma conviction sur le côté le moins noble de son caractère. Je veux parler de son goût pour le coup de théâtre. Selon moi, cet après-midi aux Assises, vous verrez Rouletabille.
Acceptons-en l'augure.
Si l'on en croit les déclarations du directeur de l'époque, c'est 50-50. Tenez, écoutez cela. Aujourd'hui, 15 janvier, alors que s'ouvre le procès Darzac aux Assises de Versailles, notre journaliste Joseph Rouletabille n'est pas encore rentré de sa mission. Peut-être ne le reverrons-nous jamais. La presse, elle aussi, compte ses héros victimes du devoir, le devoir professionnel. À cette heure, Joseph Rouletabille n'est-il plus parmi nous? Si cela est, nous saurons le venger. Notre directeur en personne sera cet après-midi à Versailles et suivra le procès. Il aura avec lui la lettre qui contient le nom de l'assassin.
Eh bien, je souhaite de tout mon cœur que nous n'ayons pas à venger Rouletabille. Autrement, je jure, moi aussi, de tout mettre en œuvre pour faire payer sa mort à l'assassin.
La cour.
Gendarme, faites entrer l'accusé.
Le ministère public contre Robert Darzac.
Greffier, veuillez lire l'acte d'accusation.
L'accusé Robert Darzac comparaît devant les assises de Versailles sous un double chef d'accusation. Tentative de meurtre sur la personne de Mathilde Stangerson et assassinat du garde du château du Glandier. Oh.
Robert Darzac, vous venez d'entendre l'acte d'accusation. Vous savez quelle lourde charge pèse contre vous. Hélas, vous vous obstinez dans un silence gros de conséquences. En tant que président du tribunal, il est de mon devoir de vous prévenir que si vous persistez dans cette attitude, que les jurés eux-mêmes finiront par considérer comme négative, vous risquez la peine capitale.
Monsieur le Président.
Oui, maître.
Plaise à la Cour de ne pas conditionner défavorablement le jury.
Maître Henri Robert, je ne conditionne pas le jury. J'informe l'inculpé. Je serai sensible au fait que vous vouliez bien saisir cette nuance.
Oh, je saisis, monsieur le Président, je saisis.
Monsieur Robert Darzac, je renouvelle mon injonction. Vous risquez la peine de mort en vous taisant.
Je subirai mon sort, monsieur le Président. Mais je persiste à clamer mon innocence.
Silence dans la salle. Qu'on fasse entrer le premier témoin.
Monsieur le Président.
Maître Henri Robert.
Avant l'audition des témoins, plaise à la Cour d'autoriser la défense à faire une déclaration préliminaire.
La Cour y consent, mais vous demande d'être bref.
Merci, monsieur le Président. L'homme que vous avez devant vous, monsieur le Président, messieurs les jurés, cet homme est un homme de science. Mieux que tout autre, il sait tirer d'un faisceau de faits la conclusion qui en découle. Il connaît admirablement la valeur des faits dûment constatés. Vous pouvez aisément imaginer que ce savant n'ignore rien des faits que nous connaissons sous le nom de mystère de la Chambre jaune. Il sait, bien sûr, que ces faits l'accusent. Et cependant, il se tait. Aussi, lorsque Monsieur le Président recourt, faisant preuve de son humanisme légendaire, s'emploie à montrer à mon client le risque affreux, le risque fatal qu'il encourt, Robert Darzac déclare simplement « Je subirai mon sort, je suis innocent. » Monsieur le Président, messieurs les jurés, seuls les âmes héroïques, seuls des caractères d'exception sont capables, et pour des motifs élevés, de regarder la mort en face, tout en proclamant bien haut qu'elle est injuste. Prenez garde, messieurs. Robert Darzac est une victime. Victime de sa propre exigence de l'honneur et de sa discrétion. Oui, Robert Darzac se tait. Il se tait par devoir. Je vous supplie de ne pas lui en tenir rigueur. Un dernier mot. En usant du privilège qu'a bien voulu m'accorder le président recours. Chacun ici a pu lire la presse, et particulièrement dans le journal L'Époque, un article annonçant une révélation sensationnelle. Une enveloppe contient le nom du véritable assassin.
Du calme, un peu de silence, je vous prie.
Le directeur du journal que je viens de mettre en cause est ici. Il est assis au premier rang du public. Et il tient une enveloppe.
Je demande au public de respecter la solennité des lieux. Cette audience doit se dérouler dans le calme et la sérénité. Avez-vous terminé, maître Henri Robert ?
Monsieur le Président, messieurs les jurés, je prends l'engagement envers la Cour, envers mon client, envers la justice, de ne tenir aucun compte de ce que pourra révéler cette lettre et de m'en tenir strictement au dossier de l'affaire. Je suis sûr de l'innocence de Robert Darzac et je souhaite que ce soit vous, messieurs les jurés, qu'il la fassiez éclater vous-même.
Silence ! L'attitude du public est intolérable ! Je vais être obligé de faire évacuer la salle. Huissier.
Oui, monsieur le président.
Introduisez le premier témoin.
Madame Clarisse Mathieu.
Je vous prie, madame, reprenez-vous. Et permettez-moi de vous dire que, de toute façon, vos larmes sont trop tardives pour être vraiment efficaces. Vous avouez donc que vous étiez la maîtresse. Non, je vous en prie. Que vous étiez la maîtresse du garde. Ce garde que l'on appelle dans la région l'homme vert. C'est bien cela. C'est bien cela, n'est-ce pas, madame? Répondez d'une façon précise. Eh bien, répondez.
Oui.
Dites oui, monsieur le président.
Oui, monsieur le président.
Et votre mari, monsieur Mathieu, a fini par être au courant de ces relations que la morale réprouve.
Oui. Mais Mathieu n'a pas tué le garde, monsieur le président. Il l'a pas tué. Non, il l'a pas tué, ça je le jure.
Messieurs les jurés apprécieront. Je vous remercie. Huissier, reconduisez le témoin.
Avec la permission de la cour, je souhaiterais l'audition de Frédéric Larsan, s'il était possible de l'appeler à la barre.
Je rappelle à la défense que l'ordre d'audition des témoins a été défini. Je ne crois pas qu'il faille y revenir.
Je ferai respectueusement remarquer à la cour que M. Frédéric Larsan estime, et il ne s'en est pas caché, que l'on ne peut expliquer la mort du garde autrement que par l'intervention du père Mathieu. Étant donné la légitime notoriété de M. Frédéric Larsan et les dénégations de la femme même de l'intéressé, la défense pense qu'il est du plus haut intérêt pour l'affaire d'éclaircir au plus vite cet aspect du drame. C'est uniquement dans ce sens que la défense s'est permis d'insister pour obtenir la déposition de Frédéric Larsan. J'ai terminé, monsieur le président.
La cour accepte les raisons de la défense. Huissier, priez monsieur Frédéric Larsan de venir à la barre.
Pour résumer, monsieur le président, je ne vois pas la nécessité de faire intervenir le père Mathieu dans tout ceci. Le sentiment de sa disgrâce l'a certes rendu agressif, mais il est volontiers coléreux, surtout après la fréquentation régulière de plusieurs bouteilles. J'ai fait part de ces remarques à M. de Marquet, mais les propos meurtriers du père Mathieu lui ont évidemment nui dans l'esprit du juge d'instruction. Pour moi, et je le répète encore une fois, les tentatives de meurtre sur la personne de Mathilde Stangerson et l'assassinat du garde ne sont qu'une seule et même affaire.
Expliquez-vous davantage, monsieur Larsan.
Volontiers, monsieur le président. Eh bien, on a tiré sur l'agresseur de Mathilde Stangerson qui fuyait dans la cour d'honneur du château du Glandier. On a pu croire un instant l'avoir tué, mais à la vérité, l'homme n'a fait que trébucher au moment où il disparaissait derrière l'aile droite du château. Et c'est là, monsieur le président, que l'assassin a rencontré le garde. Celui-ci a sans doute voulu s'opposer à sa fuite. Il venait de signer là son arrêt de mort. L'assassin avait encore en main le couteau avec lequel il venait de frapper 3 fois la fille du professeur. Il frappe le garde d'un coup au cœur. Et c'est ainsi que le garde mourut.
Je vous remercie, monsieur Larsan. Cette explication est lumineuse. Nous n'en attendions pas moins de cette expérience que vous avez si souvent mise au service des affaires criminelles les plus embrouillées.
Oh, maître.
Messieurs les jurés, votre tâche est à la fois très difficile et très simple. Simple, parce que le bon sens est dans ce mystère tragique et souvent incompréhensible le meilleur des guides. Mais parce que les ténèbres sont épaisses, votre tâche est difficile, très difficile, car les faux-semblants abondent. Parce que la tentation de croire que l'on a compris en se basant sur des faits aussi évidents qu'ils ont l'air de vous faire signe, cette tentation, messieurs, est ensorcelante. Il faut s'en méfier. Prenez-y garde, messieurs les jurés, et décortiquons chacun des faits avant de nous en servir comme pile de pont pour soutenir cette passerelle que nous jetons sur la rivière du doute afin d'aborder l'autre rive, celle de la vérité.
Bravo. 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 Bravo.
Maître Henri Robert, la cour vous remercie de cette intervention. Mais je vous rappelle que nous n'en sommes pas encore aux plaidoiries.
Je demande l'indulgence de la cour.
Monsieur Larsan, j'aimerais vous poser encore au moins une question.
Je vous en prie, monsieur le président.
Si l'on retient votre hypothèse, monsieur Larsan, pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'est devenu l'assassin?
Eh bien, il s'est évidemment caché, monsieur le président. Il s'est caché dans un coin obscur de ce petit bout de cour. Et après le départ des gens du château qui emportaient le corps du garde, eh bien, ma foi, il s'est enfui tout tranquillement.
Et alors,
Monsieur le président, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Excusez-moi, monsieur le président. D'une part, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric Larsan en ce qui concerne le coup de couteau au cœur. Mais après, je ne suis plus, mais plus du tout de son avis sur la manière dont l'assassin s'est enfui au bout de la cour.
Ces manifestations sont intolérables! Si l'assistance continue à manifester un mépris aussi souverain à l'égard de la justice, je me verrai dans la pénible nécessité de faire évacuer la salle.
Mon cher André, qu'on le veuille ou non, ce procès nous échappe. Ce Rouletabille me plaît infiniment. Vous avez vu, il a sauté par-dessus la balustrade qui sépare le public du prétoire. C'est du grand théâtre. Ça vaut largement 10 effets de manchette. Oh, regardez, il parle à l'oreille de son directeur.
Ma parole, mais il s'embrasse.
C'est la dernière fois que j'en appelle au calme. La prochaine fois, je fais évacuer la salle.
Je donnerai cher pour savoir ce que se racontent Rouletabille et son directeur.
Ça y est, monsieur le directeur, j'ai toutes les preuves. Vous pouvez me rendre l'enveloppe. Merci beaucoup. Ainsi, vous tenez l'assassin. Absolument. Je le tiens.
Ce tumulte est inconcevable. Le procès va se terminer à huis clos. Et je vais ordonner que l'on se saisisse de ce perturbateur.
Le perturbateur, c'est moi, monsieur le président, et je vous prie de bien vouloir excuser le trouble que j'ai pu causer dans ce prétoire.
Le mal est fait, monsieur.
Hélas, j'arrive d'Amérique et le transatlantique a eu du retard. Ça ne m'a pas permis d'arriver à l'heure, à l'audience, et... Mais je pense que mon témoignage, tout de même, a une certaine valeur. Je suis Joseph Rouletabille.
Silence immédiatement. Ah, vous êtes Joseph Rouletabille. Eh bien, monsieur Rouletabille, je suis moi, Émile Rocou, bâtonnier et président de ce tribunal de cour d'assises. Je suis donc parfaitement habilité à vous faire savoir ce qu'il en coûte de troubler la sérénité de la justice. En attendant que la cour délibère et tranche sur votre cas, silence! Et en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, je vous arrête.
Mais monsieur le président, j'ai présenté mes excuses au tribunal.
Monsieur Rouletabille, quand on assassine une rentière et qu'on ajoute ensuite, franchement, je ne l'ai pas fait exprès, on a quand même assassiné une rentière. Ce n'est pas votre cas, c'est vrai, mais c'est une question de principe.
Oui, mais enfin, monsieur le président.
Gendarme, assurez-vous de la personne de monsieur Rouletabille. Faites évacuer la salle. La séance est levée.
C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Aujourd'hui, 20e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe Derez, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Madame Mathieu, Monique Gérard, Maître Henri Robert, Pierre Olivier, S. Philippe Moreau, le président Recou, Claude Pieplu, le greffier Bernard Musson, et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amcy, Alain Kerval. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vienne.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 26 août 1983. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre.